Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Pour cet épisode de reprise, on va parler d'éco-anxiété et se demander comment parler de la crise climatique à nos enfants.
Parce qu'on est en train de détruire notre habitat naturel, en fait. On pourrait détruire la Terre et on n'aurait plus d'endroit où vivre.
Les autres personnes qui vont arriver après nous, eh ben, ils ne vont pas connaître ce qu'on a connu.
À force que l'on monte, eh ben, y a des pays qui vont être engloutis. On peut mourir.
Éco-anxiété. Éco comme écologie et anxiété comme angoisse, inquiétude.
67% des Français se déclarent éco-anxieux.
Des adolescents en consultation et certains d'entre eux qui se demandaient par exemple est-ce que ça vaut le coup encore de travailler à l'école.
J'avais un grand sentiment de solitude, d'impuissance surtout. J'essayais vraiment de faire beaucoup. Je suis devenue végétarienne, zéro déchet, prenais le vélo. Et j'essayais de convaincre mon entourage et puis en fait je sentais bien que j'arrivais face à un mur où je pouvais pas faire plus. Et là je me suis dit ça va pas en fait, je vais pas bien.
On reprend donc les épisodes du climat en question après une pause pour cause de congé maternité et on va entamer avec un sujet qui n'est pas des plus légers puisqu'on va parler d'éco-anxiété et on va se demander, notamment moi en tant que jeune maman, comment parler de ces sujets assez anxiogènes comme la crise climatique à nos enfants. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, qui est donc devenu grand-père, qui est toujours paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles.
Bonjour.
Et nous serons rejoints en deuxième partie d'émission par un psychologue spécialiste de ces questions. Alors une fois n'est pas coutume, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un petit peu d'introspection. Et Gilles et Sylvestre, je ne vais pas me tourner vers vous pour des explications, mais plutôt pour votre ressenti. Tout simplement, vous qui avez travaillé depuis des décennies hein, sur ces questions très anxiogènes, je le disais, de crise climatique, qui avez vu année après année des résultats de plus en plus inquiétants, est-ce que vous avez été en proie à ce phénomène d'éco-anxiété? Est-ce que c'est quelque chose qui a traversé votre vie professionnelle ou personnelle?
C'est vrai que de traiter ce sujet depuis très longtemps, hein, 30 ans, d'une manière assez régulière, mais sur le mode de l'information. C'est-à-dire que moi, mon rapport au sujet, c'était de me demander où en sont les scientifiques, quels sont leurs résultats et comment le transmettre au mieux à mes lecteurs, puisque j'étais un journaliste de l'écrit. Et donc, simultanément, évidemment, ça me permettait d'avoir une conscience assez aiguë de la réalité et de l'ampleur de la menace climatique avec pas mal d'avances temporelles sur l'essentiel de la société. Mais d'un autre côté, de considérer le problème sur un mode analytique un peu froid parce que j'étais impliqué dans son explication. Mais quand on explique les choses, on a toujours tendance à être plus du côté de la raison que du côté de l'émotion. Mais j'ai quand même eu des moments de colère noire lorsque cette action, qui était pour moi sur un mode professionnel, s'est heurtée à des collègues ou surtout à des dirigeants de journaux qui apportaient leur pierre au du prix climato-sceptique. Et ça remonte à assez loin, parce que j'ai eu un premier exemple à l'époque où j'étais à Sciences et Avenir, ça devait être en 1994. Évidemment, l'acmé de ça, c'est en 2010, lors de la campagne climato-sceptique de Claude Allègre, où j'ai dû m'affronter assez violemment au directeur de la rédaction de Libération, hein, où je travaillais à l'époque, qui au départ, lui, carrément voulait qu'on soutienne la campagne de climato-sceptique de Claude Allègre. Et donc, ça a été un moment un peu dur de ma carrière, mais ma colère, elle était dirigée contre un acte que je considérais comme très mauvais au plan professionnel, d'ailleurs, mais contraire aussi à la vérité, et puis qui s'opposait à tout ce que j'avais écrit dans le journal depuis que j'y étais, donc c'était un peu fort de café. Et donc, mes moments de colère, c'était plutôt ça.
Merci beaucoup, Sylvestre, et on reviendra tout à l'heure sur ce sentiment de colère, justement. Et toi, Gilles, comment est-ce que tu l'as vécu de travailler depuis aussi longtemps sur ces sujets qui peuvent être quand même profondément déprimants?
Oui, c'est une question que les gens me posent très souvent, de me dire, mais vous, ça doit vous plomber de travailler sur ce sujet à longueur de temps et compte tenu du fait que c'est toujours plus dur. Et en fait, pour dire la vérité, moi, au contraire, ça me renforce dans cette idée que la seule solution face à cette éco-anxiété, c'est de donner aux gens les moyens de comprendre. Et je suis persuadé de ça, je suis persuadé de l'intelligence collective et sociale. Et du coup, bien sûr, hein, j'ai des moments difficiles. Hein. Ce serait grave, je dirais, d'être un optimiste béat dans la situation dans laquelle on est. Mais je reste quand même pas mal sur cette idée que le pire, c'est l'ignorance.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et c'est vrai qu'en discutant avec d'autres personnes qui travaillent dans le domaine, j'ai pas forcément l'impression qu'on soit les plus touchés par l'éco-anxiété. Peut-être, c'est peut-être un peu paradoxal, mais on voit en travaillant sur ces sujets au quotidien à la fois les conséquences dramatiques du réchauffement climatique, mais aussi on peut se dire que bon, on y consacre énormément de temps et d'énergie et que à notre petite échelle, bah, on tente de faire ce qu'on peut en tout cas pour contribuer soit à l'explication des enjeux, soit à développer des solutions et que ça peut un petit peu nous aider. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vis. Et un autre aspect de l'épisode d'aujourd'hui sur lequel je voulais vous interroger, c'est celui de comment vous avez géré ça en famille avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous travaillez sur ces questions, donc ça a forcément dû venir dans la conversation. Est-ce que vous avez réussi à ne pas transmettre une certaine forme d'angoisse à vos enfants? Est-ce qu'il y a eu des débats en famille sur bon, mais à quoi ça sert tout ça finalement si toi tu travailles depuis des décennies et que rien n'avance? Enfin, comment vous avez géré ça? Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que ça a été un peu compliqué?
Bon, plutôt bien, parce que mes deux enfants ont des activités professionnelles qui sont en fait une réponse à l'urgence climatique. Ma fille a fait un doctorat sur un sujet, l'économie du changement climatique. Moi, j'ai du mal à me dire que ça n'a pas de rapport avec toutes les discussions qu'on a eues quand elle était adolescente et quand elle était jeune étudiante. Et puis mon fils est bien avec deux autres jeunes adultes, il a créé une banque véritablement verte. À la fois, l'objectif de cette entreprise, c'est de contribuer au financement de l'action pour diminuer la menace climatique. Et puis, j'observe aussi que, par exemple, les rémunérations qu'ils donnent sont en accord avec cet objectif. Ils ne sont pas dans la ligne du trader qui cherche à devenir millionnaire. Et pour moi, c'est évidemment assez agréable de voir ça. Pour les petites filles, bah, elles sont trop petites, mais je leur ai dédié les deux derniers livres, je les ai dédiés à mes quatre petites filles. On verra bien ce qu'elles en feront quand elles seront plus grandes.
Merci beaucoup Sylvestre. Et Gilles, je me tourne vers toi en te posant la même question, même si c'était un peu particulier, puisque comme tu es aussi mon père, j'ai en tout cas ma petite idée sur la réponse, mais comment tu as souhaité aborder ces sujets d'éco-anxiété ou de changement climatique en famille?
Oui, bon, c'est un peu particulier, c'est vrai. Je vais répondre rapidement et je vais insister sur trois points qui me paraissent importants. Moi, ma vie, ça a été une vie de modélisateur du climat. Donc, mon meilleur ami social, la personne avec qui je passe le plus de temps, c'est un ordinateur. Ah, même si je fais des conférences, même si, en tout cas, la plupart de mon temps de recherche, c'est un ordinateur. Et mes trois filles n'ont pas suivi cette voie-là. Elles ont toutes pris des chemins différents, mais qui sont beaucoup plus en relation directe avec le social et avec la prise directe, je dirais, des réalités du terrain. Moi, ça me fait plutôt plaisir. Je pense que j'ai pas, enfin, j'espère que j'ai pas transmis trop d'anxiété parce que je suis quelqu'un de peut-être très trop rationnel, que je crois beaucoup dans la raison et peut-être que j'ai pas suffisamment confiance dans l'émotion. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce problème d'éco-anxiété, au-delà de mes propres enfants, c'est quand même trois, hein, choses qui paraissent importantes. D'abord, que quand moi j'étais jeune, j'étais pas du tout éco-anxieux, effectivement, mais mes réseaux, mes relations, mon rapport avec la communication n'est pas du tout celui des jeunes d'aujourd'hui. Et un truc qui me paraît vraiment important à réaliser, c'est à quel point les réseaux sociaux peuvent être de façon très inductive, des porteurs de frayeurs. C'est-à-dire, vous êtes assez rapidement, grâce à des logiciels qui sont faits pour ça, en fait, hein, mis en contact ou dans une bulle où votre frayeur, votre peur, votre éco-anxiété peut être extrêmement amplifiée en restant dans une espèce de bulle où les gens partagent cette frayeur. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important. Une deuxième chose qui me paraît aussi vraiment importante, c'est que moi, je fais de la paléoclimatologie, donc voilà. La réussite de l'Homo sapiens, hein, elle est vraiment liée, je pense, à son caractère social et collectif. Et la vie dans laquelle on évolue ces dernières années, elle est beaucoup liée à l'individualisme. Et cette perte de repères, cette perte de confiance dans le collectif, je pense qu'elle alimente aussi une part de l'éco-anxiété. Et enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais peut-être je suis trop rationnel et pas assez apte à comprendre les émotions, peut-être, c'est que j'ai peur. J'ai très peur d'une réaction finale et désastreuse qui serait très émotionnelle. Et donc, c'est pour ça que je suis très vigilant à ce que les gens et la possibilité de comprendre ce qui leur arrive pour que, même si, parce que c'est normal, l'émotion les gagne, eh bien, ils puissent réagir de façon la plus rationnelle possible. Et encore une fois, ça me paraît tout à fait normal d'être éco-anxieux. Je dirais que si vous n'êtes pas éco-anxieux, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tous nos sens, toute notre raison est éveillée par ça. Donc la question de l'éco-anxiété, elle est patente. La vraie question, c'est comment on y répond. J'espère qu'on va donner quelques clés à ce sujet dans cet épisode.
Merci beaucoup et justement, on va en passer aux pistes pour répondre à l'éco-anxiété avec notre invité. Et pour discuter des réponses que l'on peut apporter pour mieux gérer son éco-anxiété, j'ai le plaisir de recevoir Yvan-Marc Juilliard. Bonjour, bienvenue dans le climat en question.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue clinicien, auteur d'un livre qui s'appelle Éco-anxiété, mieux gérer ses émotions liées au dérèglement climatique, publié aux éditions La Plage. Et comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de faire un épisode aujourd'hui un petit peu particulier, puisque d'habitude on s'intéresse aux conséquences du réchauffement climatique sur notre environnement, sur les populations. Et là, j'aimerais qu'on s'intéresse du coup aux conséquences du dérèglement climatique sur chacun d'entre nous, et en particulier les plus jeunes, puisque des sondages sont un peu différents, mais enfin, il semblerait que plus de la moitié de la population, et encore plus chez les jeunes, souffrent de ce phénomène d'éco-anxiété. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment ça se traduit et quels sont les symptômes que vous retrouvez parmi vos patients éco-anxieux?
Alors, la première chose, c'est déjà de noter que l'éco-anxiété est une réaction normale. Qu'avant tout, c'est pas une maladie, c'est tout simplement une réaction qui est normale liée à un dérèglement environnemental qui, lui, est anormal. C'est-à-dire quand on prend conscience des limites planétaires, notre système émotionnel, lui, ressent une sensation de danger, que ce soit une sensation corporelle ou que ce soit aussi des pensées qui s'agitent à l'intérieur de notre mental. Et en ce qui concerne l'éco-anxiété est un des phénomènes des éco-émotions. L'éco-anxiété, c'est un stress pré-traumatique, c'est-à-dire on va anticiper l'avenir de manière traumatique, c'est-à-dire qu'on va envisager des scénarios catastrophes qui, la plupart du temps, reposent sur des données scientifiques type GIEC. Là où ça commence à devenir sérieusement difficile, c'est quand l'éco-anxiété, elle, devient traumatique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a le trauma qui s'active et les gens se sentent profondément seuls, profondément impuissants. Ils ont eu un sentiment de culpabilité qui est exacerbé, c'est-à-dire ils ont l'impression qu'ils font pas assez, qu'ils devraient faire mieux. Souvent, il y a des éco-émotions comme la colère qui montent en puissance parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, pas entendus par les autres. Il peut y avoir d'autres émotions comme le dégoût ou une profonde tristesse quand on voit par exemple que 68% de la biomasse des vertébrés sauvages a déjà disparu. C'est-à-dire que c'est tout un tsunami émotionnel qui va envahir la personne et qui va en fait va la déconnecter du présent. Et du coup, les émotions dans le présent ne deviennent plus gérables, comme par exemple pourquoi faire des études aujourd'hui alors que demain le monde va brûler. Voilà comment ça se manifeste.
Et cliniquement, du coup, comment est-ce qu'on arrive à expliquer ce qui se passe dans nos têtes quand on devient éco-anxieux?
C'est très intéressant. Alors, d'une part, on va bien distinguer deux choses, qui est la perception et la neuroception. C'est-à-dire la perception, c'est ce que notre conscient perçoit, et la neuroception, c'est ce que notre corps reçoit comme information. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous entendez un crissement de pneus dans la rue, vous allez d'abord sursauter, et après, l'information va remonter du corps jusque dans nos aires frontales, c'est-à-dire notre conscience. Et à partir de là, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dangereux? Et on va observer la réalité. Et du coup, la co-anxiété peut vraiment apparaître soit de manière perceptive, soit de manière neuroceptive. Je vous donne un exemple. Une partie des gens que je vois qui souffrent aujourd'hui d'une co-anxiété handicapante ont ressenti tout petit que c'était pas normal que la vie était en souffrance sur Terre, ils avaient un petit cerveau de 6, 7, 8 ans, et que du coup, intuitivement, ils ont senti que quelque chose tournait pas rond, ils n'arrivaient pas à l'identifier. Donc là, c'est de la neuroception. La neuroception, c'est comme quand on marche en forêt, qu'on tombe sur un endroit où il y a une coupe rase, c'est-à-dire il y a une espèce de désert au milieu de la forêt, c'est-à-dire un cimetière d'arbres morts, quoi. Et là, on sent une certaine sensation de malaise. L'éco-anxiété peut aussi se manifester par le corps. Et évidemment, par le flux médiatique des informations qui circulent, notre conscience perçoit qu'il y a un danger qui est régulièrement utilisé par les médias pour activer de la peur, etc.
Mais ça, du coup, c'est un phénomène clinique qu'on retrouve face à d'autres phénomènes que juste le réchauffement climatique, évidemment.
C'est tout à fait juste, c'est-à-dire que ce n'est pas le réchauffement climatique, à savoir quand même que le réchauffement climatique n'est qu'une des limites planétaires, mais quand on dit éco, c'est écosystémie, ce n'est pas juste écologie. C'est l'ensemble des écosystèmes, qu'ils soient humains ou non humains. C'est-à-dire que c'est à la fois l'écosystème de la forêt, à la fois les systèmes, je sais pas, de soins, par exemple, le CHU, par exemple. C'est-à-dire qu'on voit que tous les systèmes se dégradent, ce qui va augmenter la sensation de danger, si c'est dans le corps, et le sentiment de danger, si c'est dans la conscience.
D'accord, mais alors du coup, pourquoi est-ce que l'éco-anxiété semble être un phénomène tellement nouveau? Est-ce que c'est parce qu'on parle plus des conséquences de la crise maintenant qu'avant?
Alors, l'éco-anxiété, c'est quand même un truc intéressant parce que tous les pays du monde se sont penchés à peu près en même temps sur cette question-là. C'est pas si souvent dans l'histoire de l'humanité que tout le monde se pose la même question. Donc, pourquoi les gens se posent la question? Soit c'est plus médiatisé, mais c'est surtout qu'on observe en fait. On observe simplement qu'il y a moins d'oiseaux, moins de bûcherons sur les pare-brises, qu'il y a des problèmes d'eau, qu'il y a des incendies. Et là, ce n'est pas des scénarios, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on vit dans notre corps. Quand cet été, il y a eu des sécheresses, pour ma part, j'habite dans un village où on n'a pas eu d'eau pendant un moment, on était alimenté en eau par le village voisin. C'est-à-dire qu'on a réellement la sensation de danger qui est dans le présent. Quand les gens sont face à des guerres, la source du danger, bah, c'est l'ennemi, quoi. C'est celui qui vient nous faire la guerre. Okay? Quand c'est le climat, il est où l'ennemi, en fait? Il est où? C'est quoi? C'est le soleil? C'est la pluie? C'est pas des ennemis, ça? Et que, du coup, c'est très déroutant. Et que nécessairement, à un moment, on va comprendre que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que on a fait confiance à des personnes qui eux-mêmes ont décidé sciemment de mettre les autres en difficulté, que ce soit les décideurs, les entreprises ou je sais pas qui. J'ai pas d'expertise sur le domaine, mais en tout cas, on a un profond sentiment de trahison et non, une perte de confiance envers les figures d'autorité.
Merci, alors ça justement, ça amène à ma prochaine question. Parce que si vous nous expliquez assez clairement que finalement c'est normal d'être éco-anxieux, c'est une forme d'éco-lucidité face aux multiples crises que nous traversons, dont certaines on voit les conséquences au quotidien, on pourrait transformer cette éco-anxiété, tous ces sentiments qui nous parcourent, en une force mobilisatrice, en tout cas en quelque chose de positif qui va nous permettre peut-être de nous sortir de cette éco-anxiété et qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur les causes ou attendre que cette crise soit résolue, parce que ça, malheureusement, ça risquerait de nous laisser dans l'éco-anxiété pendant très longtemps.
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, notre corps, on a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin d'être sécure à l'intérieur de nous, et dans notre corps, et dans notre tête. Sauf que là, on a bien conscience qu'il y a un danger. Et le fait qu'on prenne conscience, c'est ça le traumatisme de la lucidité. C'est-à-dire on réalise qu'en effet, on est dans une situation dangereuse. Il n'y a pas à débattre sur ce sujet-là. Sauf que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation qui est dangereuse qu'on doit nécessairement rentrer en panique. Si on rentre en panique, on va garder l'exemple de tout à l'heure, si on atteint un crissement de pneus, si on se met en panique, on va faire n'importe quoi, on va mettre en danger les autres ou pas, en tout cas les sécuriser. Si on arrive à être suffisamment sécure, c'est-à-dire qu'on va muscler son sentiment de sécurité, on arrivera à pouvoir agir en gérant le danger. Pour un accident de voiture, on va mettre les autres en sécurité, on va veiller à ce que chacun soit OK, qu'il n'y ait pas de suraccident. Et quand on fait ça, on va mobiliser plusieurs intelligences à l'intérieur de nous. On va mobiliser déjà l'intelligence rationnelle, c'est-à-dire, OK, on a un problème, rationnellement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le pouvoir que nous, on a? J'imagine que les gens qui vous écoutent ne sont pas présidents de la République ou font pas partie du Parlement européen, je ne sais quoi. Donc du coup, c'est quand même d'être conscient de sa zone de pouvoir. Donc c'est un exercice d'humilité. On se dit, tiens, quel est le pouvoir que moi j'ai? Qu'est-ce que moi je peux faire? On est en train de remobiliser sa force et sa zone de pouvoir. La deuxième chose, c'est que ça va mobiliser l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire quand on est éco-anxieux, on se sent coupé des autres la plupart du temps et on a un profond sentiment de solitude. Et le fait qu'on se remette en lien, on va se reconnecter avec notre biologie normale, c'est-à-dire qu'on est programmé pour être en lien. Nous, les êtres humains, on est des animaux grégaires, on adore vivre en troupeau, en clan, on appelle ça comme on veut.
Oui, en rejoignant ce que Gilles nous disait tout à l'heure.
Et sans ce lien-là, on perd notre sentiment de sécurité. Donc, en retrouvant le lien à l'autre, que ce soit dans les associations de protection de l'environnement, les actions militantes. On va se remettre en lien avec les autres, ça va nous rapporter de la sécurité. Et enfin, la troisième intelligence que l'éco-anxiété va mobiliser, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va apprendre à lire à l'intérieur de soi pour mieux comprendre comment ça marche, être sécure. C'est-à-dire qu'on va mieux pouvoir arriver à calmer son anxiété, sa colère, sa peur, sa tristesse, quand on entend une information à la radio qui pourrait largement nous plomber ou nous énerver. Mais étant donné qu'on connaît notre écosystème interne, c'est-à-dire notre système nerveux, on arrive à se rassurer. Donc, grosso modo, l'éco-anxiété permet de mieux se connaître pour mieux gérer sa sécurité intérieure et du coup pour avoir des actions plus efficaces et pertinentes dehors.
Mais alors du coup, avec tout ça, est-ce qu'on peut guérir de l'éco-anxiété? Est-ce qu'on peut se dire un jour, ça y est, je suis plus éco-anxieux, ou c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre vie?
Alors je ne crois pas qu'on guérisse d'un truc dont on n'est pas malade. Je ne crois pas qu'on a besoin de le guérir, on a plus besoin de l'accueillir. Si on ressent des émotions comme la colère, en fait c'est normal. C'est normal d'être éco-furax. C'est normal de se sentir aussi trahi quand on apprend que certaines entreprises, ça va être depuis les années 70, la direction qu'allait prendre le climat, blablabla. C'est normal d'être en colère. C'est normal aussi de culpabiliser, parce que ceux qui ne culpabilisent pas, en fait, les sociopathes ne culpabilisent pas. Donc, quand on culpabilise, on peut déjà se rassurer en se disant qu'on n'est pas sociopathe. C'est normal d'être triste quand on voit que les écosystèmes se dégradent. Et toutes ces émotions sont normales et on peut que les accueillir. Donc, je ne crois pas qu'on puisse en guérir. Par contre, on peut accueillir l'émotion sans qu'elle devienne intolérable. Si elle devient trop intolérable, en fait, on se dissocie. Et là, on n'est plus dans la réalité. Il y a une partie de nous qui est dans la réalité et puis l'autre qui est dans les scénarios catastrophes de Mad Max, Walking Dead ou je ne sais pas quoi l'être, dystopie.
Alors maintenant, je voudrais vous poser des questions en tant que jeune maman, puisque je l'ai dit, on reprend ce podcast après un congé maternité. Je retrouve enfin un petit peu de temps libre pour pouvoir relancer ces épisodes et ça me tenait à cœur. Mais comment est-ce qu'on fait en tant que jeune parent? Moi, je me pose aussi beaucoup de questions. À la fois, j'ai envie de parler de ces sujets, bon, évidemment, quand les enfants sont un peu plus grands, mais j'ai pas non plus envie de leur créer de la culpabilité ou des angoisses ou de l'éco-anxiété. Alors, comment on peut les accompagner pour gérer ces émotions qui, comme vous le disiez, sont normales, mais peuvent aussi se révéler assez angoissantes?
Voilà, c'est tellement important ce que vous dites. Alors avant tout, bienvenue à ce petit bonhomme ou cette petite fille qui est arrivée dans le monde. Elle est
Merci.
Bien tombée, elle a de la chance. Alors, les enfants, eux, ils ont un petit cerveau qui n'est pas mature. Il va falloir 24 ans pour que leur cerveau il se construise. Qui soit mature. Donc, ça veut dire que la sensation d'être sécure chez un nourrisson ou même pendant les 24 premières années de la vie, alors c'est beaucoup plus vrai à un jour qu'à 23 ans, moins un jour, mais l'enfant, lui, il a besoin de co-régulation. C'est-à-dire qu'il a besoin que l'adulte, lui, gère son émotion pour que lui se sente bien. En exemple tout bête, un bébé qui pleure, on le prend dans les bras, si on est tout stressé, ben l'enfant il va sentir le stress par neuroception, et du coup l'enfant il va pas sentir de la sécurité à l'intérieur de son corps. Donc qu'il ait une semaine, un an, 10 ans ou 20 ans, en fait ça change rien. C'est-à-dire que l'adulte, lui, il peut amener de la sensation de sécurité. Or, quand on parle d'éco-anxiété, quand les parents, eux, sont éco-anxieux, en fait, nécessairement, ils vont émettre une sensation de danger quand ils parlent d'environnement, alors que ce soit par de la colère, de la tristesse, de la peur, du dégoût, je ne sais quoi. Et vraiment, quand on parle de l'environnement auprès des enfants, il y a un truc, à mon avis, il est essentiel de ne pas oublier, c'est est-ce que l'info que j'envoie à l'enfant est sécure? Est-ce que moi, je suis sécure quand j'en parle? Parce que si je donne une info qui, du coup, est « mais tu vas voir, ça va bien se passer », mais qu'à l'intérieur de moi, je suis en panique totale, en fait, ça ne va pas du tout marcher pour le môme. Il va bien comprendre qu'il y a un double message. Il va l'intégrer. En revanche, si on arrive à pouvoir envoyer un message sécure, alors on va pouvoir rassurer l'enfant, non pas tellement sur le contenu de ce qu'on va dire. Vous savez, les bébés, on leur parle, mais en fait, ils ne captent rien. Leur petit cerveau, il n'est pas encore calibré pour comprendre les mots, etc. Mais ils vont capter, en tout cas, l'intention. Et ça, cette compétence de capter l'intention, on ne la perd pas avec l'âge. Même aujourd'hui, quand quelqu'un nous raconte des salades et qu'on n'y croit pas, bah, y a une part de nous qui n'y croit pas. C'est-à-dire que ça ne va pas nous sécuriser. Donc, pour donner de la sécurité à un enfant, quand on parle d'éco-anxiété ou même en général, là, je vous invite à avoir 4 points. Le premier point, c'est on est plus fort. C'est-à-dire qu'on est suffisamment fort pour recevoir les inquiétudes de l'enfant. On est suffisamment fort, on sait défendre notre enfant et on peut lui expliquer que bah, nous, on est fort et que nous, on fait face. On fait face et on fera face au dérèglement climatique, on va faire face aux crises. Et ça, l'enfant, il a besoin de savoir que nous, on va être là. Ça, c'est le premier point, le plus fort. Le deuxième, c'est on est plus sage. Quand on est plus sage, on prend du recul sur la vie et il est toujours intéressant de rappeler aux enfants que, tu sais, moi, je me pose des questions, ouais, c'est vrai que je suis inquiet, c'est vrai, mais aussi je sais qu'il y a plein de gens extrêmement intelligents qui réfléchissent aux mêmes choses et qu'on n'est pas tout seul. Et l'enfant, il va dire, ouais, mais comment on va faire quand il fera trop chaud, etc. Et d'activer notre sagesse en tant que parent, dire, ben, tu sais, moi, je crois que toi, tu vas trouver des solutions. Quelle solution, par exemple, toi, tu pourrais trouver? C'est de l'amener vers son sentiment de sécurité parce que nous, on se sent sécure. Le troisième point, c'est évidemment accueillir et réconforter l'enfant en cas de stress, c'est-à-dire quand lui, il est tout flipouille, là, parce qu'il a entendu une info, mais qu'il a entendu que les degrés montaient ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, on accueille la parole, on la reçoit et nous, on essaye de rester sécure. Et le quatrième point, c'est soutenir l'autonomie et le besoin d'exploration du monde. Ça, c'est vraiment un point qui me semble important dans la sécurisation des enfants quand on parle d'environnement, c'est-à-dire de croire et d'avoir confiance en leur capacité de trouver des solutions aujourd'hui déjà et même dans l'avenir. C'est-à-dire que nous, simplement, on a confiance en eux.
Donc ce que vous nous dites finalement, c'est que c'est bien d'en parler, il faut juste savoir comment bien aborder le sujet au bon moment, mais c'est mieux dans tous les cas d'en parler en famille aussi pour préparer l'enfant peut-être à ce qu'il va de toute façon entendre à l'extérieur pour pas que ça l'angoisse trop le jour où il fait face à ces informations.
Ben en fait, on peut en parler tout le temps. Si on n'en parle pas, on le rend tabou. Si on le rend tabou, c'est tellement dangereux qu'on ne peut pas en parler. Alors que si on en parle, et qu'on en parle de manière sécure, hein, si c'est vraiment important, donc comment on fait pour en parler de manière sécure? Ben, on respire, on se calme, on s'est apaisé. Vous savez, c'est comme quand on va faire, j'imagine que votre bébé pleure. Bon, ben, quand il pleure, d'abord, je respire. Après, je le prends dans les bras. D'abord, je me régule. Après, je le régule lui. Et quand on parle de l'éco-anxiété ou des éco-émotions en général, quoi, que ce soit notre colère, quand je parle telle ou telle décision est prise à la radio, puis qu'on est dans la voiture ou à la maison, et qu'on dit, oh là là, ils font n'importe quoi, on ne peut pas avoir confiance en eux, ça va pas, bah, l'enfant, il capte ça. Donc, du coup, de toute façon, même si on ne le dit pas, de toute façon, l'enfant, il va avoir l'information.
Ouais, donc c'est important de lui retraduire ensuite.
Ouais, et puis vraiment de normaliser en disant, bah, tu sais, en fait, c'est juste normal d'être en colère, mais que la colère, ça va, c'est pas parce qu'on est en colère qu'on va tout péter, quoi. Non, non, on est en colère et la colère, elle a une compétence. La colère, par exemple, elle nous permet de défendre notre territoire, comme le rouge-gorge, il défend son territoire, comme le renard. Et que c'est normal que nous, on ait besoin de se défendre et que la colère, elle nous aide à ça. Que la tristesse, elle nous aide à prendre conscience de ce qui a de la valeur pour nous. On est toujours triste de ce qui a de la valeur. Si on a perdu quelque chose dont on s'en fout, bah, en fait, on n'est pas triste. Que le dégoût, c'est aussi une émotion qui nous protège. Que la peur, évidemment, que c'est une fonction vitale pour se protéger et se mettre en sécurité. Et que notre organisme, biologiquement, il a besoin de trois émotions qui sont la sérénité, c'est-à-dire on a besoin d'être suffisamment serein. Alors parfaitement serein, ça n'existe pas, parce que biologiquement, quand on est serein, on n'a pas trop de stress, nos organes internes, ils sont en bon fonctionnement, on arrive à raisonner normalement. Ça, c'est la première émotion biologiquement qu'on va toujours chercher. La deuxième qu'on va régulièrement chercher, c'est la joie, c'est-à-dire que on a besoin de se connecter à cette émotion de joie parce qu'elle nous donne de l'énergie sans que ça nous en coûte. C'est-à-dire quand on a la patate, quand on est enthousiaste, quand on est content d'apprendre, par exemple, pour les enfants ou les adultes, bah, ça ne nous demande pas d'énergie. C'est gratuit. Et enfin, la dernière émotion que notre corps va tout le temps chercher, c'est l'amour ou le lien. Et ça, c'est probablement l'émotion qui est la plus importante dans le sens où si on n'a pas le lien à l'autre, alors les deux autres ne sont pas vraiment accessibles. C'est-à-dire si on se sent seul, avoir accès à la sérénité, c'est compliqué parce que seul, on n'est pas en sécurité. Et si on est tout seul, bah, éprouver de la joie tout seul, pourquoi pas? Mais à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et avec l'enfant, c'est vraiment d'être en lien et de garder où lui, il en est dans ses émotions, dans ce qu'il vit et notamment quand on parle des problèmes environnementaux. Et quand lui parle de l'avenir, c'est difficile en tant que parent de se connecter en disant, bah, tu sais, moi, je sais que ça sera difficile, mais moi, j'ai confiance et moi, je vais être là, en fait. Je vais te soutenir et je serai toujours là pour te soutenir.
Bien, merci beaucoup pour ces sages conseils. Je voudrais juste terminer par une question très pratico-pratique, puisque moi, j'ai souvent entendu les enfants, lors de formations qui leur sont dédiées sur le climat, poser les pieds dans le plat, je dirais, et nous mettre face à nos contradictions du quotidien en posant des questions comme « Mais si c'est si grave que ça, pourquoi on continue à avoir une voiture? Pourquoi on continue à manger de la viande? Pourquoi est-ce qu'on continue à prendre l'avion, à partir en voyage, même si parfois c'est pour aller voir de la famille qui est très loin ?» Enfin, vraiment, ils mettent le pied dans le plat. Comment est-ce qu'on fait du coup pour gérer les contradictions du quotidien avec nos enfants?
Bah, la première, c'est qu'on valide. Ils ont raison. C'est tout. On accueille. Bah ouais, c'est vrai. Mais que nous, on ne savait pas et que ça, on ne l'a pas choisi. On n'a pas choisi d'avoir une vie comme ça. Et à un moment, on a réalisé que mince, le jean que je porte, en fait, il vient d'où? Ben, je ne sais même pas. Peut-être qu'il a été fabriqué par des enfants. Et que oui. Et qu'après, nous, on a un programme où on essaye de modifier petit à petit, petit à petit. Comme quand on entretient un jardin, ça ne pousse pas à la vitesse à laquelle on aimerait, ça pousse surtout à la vitesse à laquelle ça peut. Et nous, aujourd'hui, on fournit l'effort. Mais que c'est vrai qu'avant, on a fait de la bouse, quoi. Ça, c'est vrai. Et vraiment de valider que quand les enfants attaquent les adultes en leur disant, mais c'est de ta faute, ben ouais, c'est un peu vrai. C'est difficile à recevoir. Souvent, les générations plus anciennes ont du mal à accepter ça. Mais en fait, c'est vrai. Les enfants ont une sagesse, ou s'ils attaquent, ils ont raison, en fait. Et c'est OK, quoi. Et après, on te dit, bah ouais, je vais changer juste par amour pour toi. C'est vrai aussi, ça. Et merci de me le dire, quoi.
Oui, c'est aussi un facteur d'action assez puissant.
C'est ça. Et surtout, on observe que l'éco-anxiété aujourd'hui, dans les repas de famille, c'est pire que la politique. C'est-à-dire que les générations du dessus ont du mal à entendre qu'ils ont une part de responsabilité. Et s'ils ne la prennent pas, alors les enfants se sentent profondément seuls et pas soutenus par leur famille, ce qui, pour le coup, crée un sur-trauma. Donc, on accueille et on dit, ouais, mais t'as complètement raison. Moi aussi, si j'étais à ta place, je ressentirais exactement le même truc. Et puis après, pour un petit exemple tout bête, mais mon fils, un jour, qui avait 4 ans, m'a dit, mais pourquoi tu tonds toute la pelouse? Il n'y a plus de fleurs. Et bien, je lui ai dit, bah, en fait, tu sais quoi? Je l'ai entendu plusieurs fois dans des conférences, mais parce que toi, tu me le dis, et ben, moi, je vais le faire. C'est-à-dire que mon fils, à 4 ans, en une phrase, il m'a fait changer un comportement. Ça veut valider que ce qu'il dit, c'est juste profondément sage.
Eh bien, merci beaucoup Yvan-Marc Juliard d'avoir été notre invité pour cet épisode de reprise du climat en question. Moi, ça me tenait beaucoup à cœur qu'on parle d'éco-anxiété, qu'on s'interroge sur la façon dont on va parler à nos enfants, qu'on aime tellement, mais pour qui on s'inquiète aussi face à l'état du monde aujourd'hui. Donc, je suis contente qu'on termine sur une note d'optimisme qui nous pousse à l'action par et pour nos enfants. Et on en reparlera certainement dans de prochains épisodes. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Etifié et Karine Baldé pour leur coup de main pour la réalisation de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Et si vous aussi vous avez souffert d'éco-anxiété, vous voulez nous faire partager vos expériences pour parler du climat à vos enfants, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou par email, le climat en question avec un S at ecomail.fr. On attend vos retours et on se réjouit de reprendre ces épisodes avec vous toutes et tous. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.